La science CQFD, Natacha Trioux.
Le glaciologue Claude Lorius est décédé le 21 mars dernier. Il fut l'un des premiers scientifiques à alerter sur le changement climatique. Comment est-il devenu cet acteur majeur pour les sciences du climat ? Il est le premier à l'avoir scientifiquement prouvé. Lorsque le CO2 augmente, la température du globe augmente. En analysant des carottes de glace extraites en région polaire, il montre que non seulement les gaz à effet de serre ont une influence sur le climat, mais que les activités humaines impactent l'atmosphère de notre planète. Lanceur d'alerte dès 1987, l'histoire de Claude Lorius est celle de l'éclosion de la climatologie moderne. C'est aussi l'histoire d'une prise de conscience mondiale. Nous lui rendons hommage. Claude Lorius, le formidable homme des glaces. Jean Jouzel, bonjour.
Bonjour Natacha Trioux.
Bonjour, vous êtes paléoclimatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. Vous avez été un ami et un très proche collaborateur de Claude Lorius et vous lui consacrez un chapitre dans Climat, l'inlassable pionnier, un ouvrage à paraître le 14 avril aux éditions Ouest France. Avec nous également, Jérôme Chaplace, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue, ancien directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École fédérale polytechnique de Lausanne. Vous avez vous aussi travaillé aux côtés de Claude Lorius. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources, d'articles et d'entretiens. C'est dès maintenant @sciencesCQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de la vie de Claude Lorius, de ses engagements, de comment ses travaux ont contribué à l'avènement de la glaciologie et de la paléoclimatologie, de leur importance politique. On commence en Terre d'Adélie. En Terre d'Adélie, en 1965, Claude Lorius a une intuition. À l'heure de l'apéritif, il plonge dans son whisky un glaçon qui vient d'un forage d'environ 100 mètres de profondeur.
Alors, quand on regarde une carotte de glace, on voit les cristaux qui forment la glace, notamment quand on l'éclaire en lumière polarisée. Et puis, on voit qu'il y a des petites poussières qui viennent des volcans, des explosions nucléaires et surtout des bulles d'air. Lorsque la neige tombe, et peu à peu elle se transforme, on a du névé et on a de la glace. Et cette glace, eh bien, elle conserve l'empreinte de l'atmosphère du passé. Il n'y a pas de moyen de reconstituer la composition de l'atmosphère passée, si ce n'est dans ces bulles d'air. Comment cette idée nous est venue? C'est lors d'un forage, déjà, où en buvant un whisky, j'ai mis dans mon verre un petit morceau de glace qu'on venait de récupérer et les bulles se sont mises à éclater. Et c'est là que l'idée a germé, ces bulles, est-ce qu'elles ont conservé fidèlement l'empreinte de l'atmosphère passée? Donc ça a été, je pense, un pas majeur. Il y avait déjà toute la richesse de l'information climatique, de la reconstruction des températures, sur lesquelles notamment Jean Jouzel a travaillé énormément et travaille toujours. Et ça donnait vraiment un plus, puisque pour la première fois, on a montré que dans le passé, et c'est un message pour le futur, que dans le passé, la concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre, mesurée d'après les bulles, les gaz à effet de serre, c'est le CO2, c'est le CH4, le dioxyde de carbone, le méthane, et bien que climat et concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre, ça marchait ensemble.
Voilà un extrait du documentaire Claude Lorius de Jean-François Dard et Anne Papillon du CNRS. Jean Jouzel, ce whisky on the rock, c'est un peu l'instant Eureka de la climatologie.
Oui, c'est vrai, Jérôme en parlera mieux que moi, puisque lui, il est un des spécialistes de cette extraction du petit bulle d'air de la glace. De mon côté, comme l'a dit Claude, je m'intéressais plus à l'analyse de la glace elle-même pour reconstituer le climat. Alors là, on est en 65, en fait, Claude commence sa carrière un peu plus tôt, avec l'année géophysique internationale, 57-58. En fait, il répond à un appel, essayant d'identifier des jeunes qui voudraient aller en Antarctique. Alors, il se pose la question entre répondre à un appel pour aller au Sahara ou bien en Antarctique. Et c'est l'Antarctique qu'il choisit. Et c'est au moment, on est, je crois, en 56, il a 23 ans. Et voilà, il va en Antarctique. Et c'est la première expérience, effectivement, c'est quelques mois à la station Charcot, enfermé sous la glace, et ça, il y a eu un très beau documentaire. Et c'est comme ça, dans la difficulté d'ailleurs, que Claude commence sa carrière de glaciologue, simplement en analysant, en regardant les données. Il y avait très peu de données, hein. Hiverner, disons, sur le plateau antarctique, c'était une des premières. Eh bien, c'est l'année géophysique internationale. Claude va commencer sa carrière et... dans la première partie, faire sa thèse sur l'analyse de la glace, son analyse isotopique, voilà, et c'est là que je l'ai connu. Et nous sommes dans les années 60 à ce moment-là, et tout cela va se développer assez rapidement finalement. Et Claude a été vraiment le pionnier de toute une discipline, c'est-à-dire cette idée qu'il avait, et qu'il a créé toute une équipe, on en est tous les enfants de cette capacité des archives glaciaires à reconstituer notre climat, notre environnement. Et ça a été ça l'apport de Claude, de former des jeunes, d'entraîner, ça a été assez formidable, et puis aussi de nous permettre à nous tous d'avoir accès à des échantillons exceptionnels.
On va revenir tout au long de cette heure sur cet héritage et sur cette étape dans la recherche de Claude Lorius. Je voudrais votre réaction, Jérôme Chaplat, sur ce célèbre épisode du glaçon de la calotte dans le whisky, de cette intuition pour la naissance de la climatologie moderne.
Oui, c'est un bel épisode qui rappelle que la science est parfois affectée ou en tout cas conduite par des événements. Et ça a été effectivement un événement marquant. Jean fait bien de rappeler que 8 ans auparavant, la carrière et l'histoire, le destin de Claude Lorius sera marqué par cette année géophysique internationale 1957-58. Une aventure absolument extraordinaire. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, l'Antarctique, on n'en connaissait rien. On avait juste découvert le pôle sud avec les premiers explorateurs. Et pendant cette année géophysique internationale, un élan extraordinaire se mettait en place pour découvrir ce que c'était que ce continent. Et il faut quand même imaginer trois jeunes scientifiques, Claude Lorius avait seulement 25 ans, qui ont passé 12 mois coupés du reste du monde, dans une petite cabane de 6 mètres par 4, enfouie sous la neige, à 300 km de la côte antarctique, complètement isolés. Et ils ont conduit vraiment les premiers travaux scientifiques. Claude, à l'époque, s'intéressait aux propriétés physiques de la neige qui tombait en surface, et notamment comment elle évoluait avec la température. Et vraiment, ça a été le facteur déclencheur. Un autre, ça a été en 1959, après cet hivernage, Claude a été invité par les Américains à prendre part à un convoi terrestre en territoire inconnu de l'Antarctique sur 2500 km, durant lesquels il a collecté de la neige de surface et il a mesuré la température. Et c'est comme ça qu'avec l'équipe du commissariat à l'énergie atomique, avec Étienne Roth et puis ensuite Jean Jouzel bien sûr, il a démontré ce lien très étroit qui existe entre la température à laquelle les flocons de neige se forment et la composition en atomes lourds et en atomes légers de l'hydrogène présent dans les molécules d'eau qui constituent ces flocons. Et vraiment, ça a été une autre révolution que l'on doit aux travaux pionniers de Claude au tournant des années 50 et 60.
Alors l'histoire de Claude Lorius commence le 27 février 1932, il naît à Besançon, il commence des études de physique, mais au départ vous dites, Jean Jouzel, qu'il ne rêvait pas du tout aux étendues gelées. Qu'est-ce qui l'a conduit à étudier les mondes polaires ?
Oui, ce à quoi il rêvait, c'était d'être footballeur. Et c'est vrai que son frère a été footballeur professionnel, gardien de but d'une équipe célèbre à l'époque, le FC Sochaux, dans les années 50. Et Claude était aussi un excellent footballeur. Je crois qu'il a été international universitaire. Non, et effectivement, je crois qu'il avait, j'imagine en tout cas, qu'il avait le goût de l'aventure. Il sait effectivement, il a regardé ce qui lui était proposé en tant que jeune physicien, et voilà, il est tombé sur ces deux annonces, l'une sur, je crois, le Sahara, mais il a choisi vraiment parce que je pense qu'il avait vraiment envie de découvrir ce monde qui était, Jérôme l'a bien dit, complètement inconnu. Quand, disons, avant les années 50, il y avait de l'exploration en Antarctique, mais je crois que l'approche scientifique de l'étude de l'Antarctique s'est vraiment marquée par l'année géophysique internationale. Et Claude y a participé pleinement. Il y a participé pleinement à titre personnel, bien sûr, sur sa thèse, Jérôme l'a dit, mettre en évidence ce lien entre climat et composition de la glace. Mais il a aussi, pendant cette année géophysique internationale, tissé des liens vraiment exceptionnels avec... disons, ses partenaires internationaux, à l'époque l'Union soviétique, et voilà, Kotliakov, Volga Kotliakov, qui a le même âge que Claude, qui, voilà, c'est vraiment cette génération des contacts avec les chercheurs américains, avec les Australiens, et tout cela, eh bien, ces collaborations, nous en avons encore la marque dans les collaborations que nous avons aujourd'hui en France. Donc Claude, c'est pas simplement ce qu'il a fait lui-même en termes de recherche, de sa thèse, qui est extrêmement intéressante, mais ce qu'il a su mettre en place au niveau international, ses collaborations, et c'est vraiment une force que d'avoir tissé des liens pendant cette ingénierie géophysique internationale, et voilà, ils lui seront bénéfiques, je crois, tout au cours de sa carrière.
Oui, c'est que, comme ça me fait penser à une interview où Claude Lorius disait, en tout cas, pour ma part, j'étais là surtout pour l'aventure. De fait, nous étions davantage des explorateurs que des scientifiques. Jérôme Chaplet, c'est-à-dire qu'à cette époque, pour bien situer, de l'Antarctique, on ne sait pas grand-chose, il y a tout à découvrir.
Il y avait en effet tout à découvrir, et en fait c'est un ensemble de nations, environ 12 nations, qui ont décidé d'investir pour aller comprendre ce que c'était que l'Antarctique pendant cette année et demie d'expédition 1957-58. Et comme l'a mentionné Jean, en fait d'autres scientifiques, des soviétiques, des américains, des australiens, des africains du sud, des japonais, ont connu peu ou prou ce que Claude a connu, qui consistait à être isolé du reste du monde, conduire cette science dans des conditions extrêmement difficiles, et ça a créé des amitiés extraordinairement fortes. Donc quand ces scientifiques se retrouvaient annuellement pour leur réunion pour parler de la science en Antarctique, c'était pas seulement des réunions scientifiques, c'était des réunions d'amis. Et Claude, je pense qu'une de ses grandes capacités, c'était qu'il avait un entre-gens, il avait un sens du contact extraordinaire. Et il savait nouer des amitiés, il savait les entretenir. Et je pense que le succès fondamental qu'on a eu, notamment avec l'analyse des carottes soviétiques de Vostok, c'est parce que Claude avait su nouer ses amitiés avec ses collègues soviétiques qui ont perduré au travers des décennies.
Alors c'est dans des conditions de vie extrêmes que Claude Lorius attrape le virus de l'Antarctique. Jean Jouzel, ses débuts de jeune chercheur ont quasiment accompagné l'émergence de la glaciologie. Quelles sont justement ces premières mesures de cette science balbutiante? Comment se mène l'étude des glaces à cette époque? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette naissance de cette discipline?
Oui, cette discipline naît, au Danemark, avec un chercheur qui s'appelle Willy Dansgaard, qui est décédé maintenant il y a une dizaine d'années, et qui le premier, effectivement, en 52-53, dans sa thèse, montre le lien entre la composition des précipitations, hein, le rapport hydrogène lourd sur hydrogène léger, oxygène lourd sur oxygène léger, et vraiment leur histoire, la température de formation des précipitations. Il démontre qu'il y a un lien entre température et composition des précipitations sur le Groenland, et il se dit évidemment, si la température est le facteur déterminant de la composition d'une précipitation, si on est capable de récupérer des précipitations de la neige de périodes antérieures, on aura accès aux variations du climat. C'est complètement construit là-dessus. Le premier forage glaciaire, c'est justement en 65. Donc, Willy Dansgaard s'allie avec les Américains à l'époque. Il faut bien, c'est au Groenland, évidemment. Il y a ce lien très fort entre Groenland et Danemark. Il lui faut un soutien logistique. Il va le chercher aux États-Unis. Ça marche très bien. Premier forage en 65, au Camp Century, une ancienne base américaine. Et ça démarre là. Et c'est le moment où Claude, effectivement, lui fait sa thèse. Et le rêve de Claude va être de faire la même chose au Groenland, en Antarctique, justement. Il y a, disons, le premier forage en Antarctique, ce sont les Soviétiques qui commencent en les années 70. Des petits forages qui ont été d'ailleurs celui que Claude, dans les années 60, dans les régions côtières. Et puis, le rêve de Claude était d'aller au milieu de l'Antarctique et puis de développer aussi d'autres technologies, c'est-à-dire que je dirais que ce sur quoi il a fait sa thèse, il m'a un peu donné le flambeau. C'est moi qui ai repris un peu cette partie de reconstitution des aspects climatiques. Et puis, toute une équipe s'est créée à Grenoble. Alors d'abord, cette équipe était à Saclay. Hein. Il fallait voir que Claude Lorius n'avait pas de laboratoire. Il travaillait sur une péniche et il amenait ses échantillons de neige au laboratoire de Saclay, donc au laboratoire de géochimie isotopique, hein, Liliane Merliva, Étienne Roth. Et ils étaient analysés, et moi-même, je travaillais sur la formation de la grêle à cette époque. Je rencontre Claude. Alors, il y avait aussi, Dominique Reynaud, Robert Delmas, qui étaient à Saclay, qui eux avaient pour mission de développer déjà l'analyse des petites bulles d'air, comment on les extrait. Et d'ailleurs, le premier succès, c'est celui de Robert Delmas dans les années 80 sur les glaces de Vostok. Alors, c'est un hommage à Robert Delmas qui a disparu très récemment. Et puis, création de toute cette équipe avec Dominique, avec Jean-Marc Barnola, et puis Jérôme le dira, bien sûr. Jérôme est un peu plus jeune, donc il est arrivé un peu après. À la fin des années 80. Mais ce qu'il fallait, il y avait ce premier forage au Groenland, un forage en Antarctique, dans l'Antarctique de l'Ouest, mais le rêve de Claude se concrétise par un premier forage de 800 mètres au Dôme C, mais tout cela n'allait toujours qu'au-delà de 40, 50 000 ans, même 30 000 ans dans ce cas-là peut-être. Et le trait de génie de Claude, et nous y reviendrons, c'est vraiment d'avoir eu accès, on est au début des années 80, aux échantillons de ce forage de Vostok, au cœur de l'Antarctique, réalisé, lui, par les Soviétiques.
Avant de parler de ce forage, lui aussi mythique, en plus réalisé dans des conditions assez exceptionnelles en pleine guerre froide, votre réaction également à Jérôme Chaplas sur justement ce moment où Claude Lorius se rend sur ce fameux Dôme C au cœur de l'Antarctique en 1977 et 78.
Oui, ça a même été un petit peu précédé parce qu'il s'est rendu une première fois en 1975 avec l'aide justement des Américains pour caractériser ce site, ce fameux site du Dôme C, qui était un des points culminants de la calotte de glace antarctique, hein, qui est gigantesque. Hein. Je rappelle que l'Antarctique, c'est 25 fois la France et qu'à l'époque, on n'en connaissait finalement pas grand-chose. Donc, il s'est fait déposer par les Américains. Il a conduit pendant quelques jours des premières observations qui ont confirmé que le site était tout à fait adapté à conduire du carottage profond et retirer de la glace en profondeur qui s'était formée il y a très longtemps, plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'années. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Claude, d'abord, quand il a quitté Saclay et qu'il a rejoint Grenoble pour constituer avec le professeur Libboutry le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, il a su s'entourer d'une équipe technique, non seulement de chercheurs, excellents chercheurs, hein, qui travaillaient sur la chimie de la glace, sur les poussières, sur les gaz, sur les métaux lourds, etc. Mais il a constitué une équipe technique capable de construire des outils de carottage pour extraire cette fameuse glace à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le glacier, dans des conditions extrêmement froides, comme vous imaginez, au cœur de l'Antarctique. Et effectivement, ça a conduit à cette opération en 1977-78, où en une seule saison, toujours avec l'aide des Américains au niveau logistique, l'équipe technique française a pu conduire un carottage jusqu'à 900 mètres de profondeur. Première fois qu'on accédait en détail à ce qu'on appelle la dernière transition climatique entre la dernière glaciation et la période chaude que l'on connaît depuis 11 000 ans. Donc ça a été une glace extrêmement importante puisque c'est grâce à cette glace que Robert Delmas a pu démontrer pour la première fois qu'il y avait moins de gaz carbonique pendant la période froide que la période chaude. Ça a été des publications en 1980. Qui a vraiment fait date et qui a, je dirais, marqué l'histoire de cette science avant le fameux triptyque dont on va reparler avec Vostok en 1987.
On en parle dans quelques instants. On continue de vous raconter ces expéditions et ces découvertes. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Je voudrais tout de même commencer par vous rappeler le volume des glaces qui existent actuellement sur notre Terre. Cette glace est essentiellement concentrée dans l'Antarctique et au Groenland. Les autres glaciers qui existent dans les régions tempérées ne représentant qu'une partie assez faible. Pour vous donner quelques chiffres, l'Antarctique c'est 30 millions de kilomètres cubes, c'est-à-dire 90% du total, le Groenland 2,5 millions de kilomètres cubes, soit à peu près 10%, et je dis à peu près parce qu'il reste 0,2 millions de kilomètres cubes pour l'ensemble des autres glaciers. On pourrait tout d'abord examiner la façon dont se sont formées ces calottes polaires. Eh bien, tout simplement par accumulation de couches de neige qui se déposent successivement dans le temps. Et en même temps que la neige, ces couches renferment d'autres substances, des aérosols. Un aérosol est défini comme étant de la matière finement divisée en suspension dans l'air, et aussi des gaz qui sont emprisonnés dans la glace au moment où celle-ci se forme. On a mesuré dans les régions centrales de l'Antarctique jusqu'à 4000 mètres d'épaisseur de glace et la neige se dépose actuellement à un rythme qui est d'environ 2 cm par an. Alors même en admettant que cette glace ne se soit pas écoulée, qu'elle ne se soit pas déplacée, on peut estimer qu'un ordre de grandeur raisonnable de l'échelle de temps représente 200 000 ans.
La voix de Claude Lorius en 1968 à 16h20 sur France Culture, car nous rendons hommage aux pionniers de la climatologie aux côtés de ses proches collaborateurs Jérôme Chaplaz et Jean Jouzel. Jean Jouzel, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, c'est très bien expliqué, je crois, cette importance de l'Antarctique par rapport à, disons, au volume de glace. Il y a aussi à bien réaliser que ces chiffres, eh bien, ce sont dire l'importance ici de l'Antarctique, du Groenland, dans l'élévation du niveau de la mer. Donc, on a l'impression, disons, la réflexion, c'est qu'on a le sentiment que l'Antarctique, le Groenland, c'est très loin de chez nous, mais pratiquement actuellement, les deux tiers de l'élévation du niveau de la mer sont liés au fait que le Groenland et l'Antarctique y contribuent. C'est ça qui est important quand on parle de quantité d'eau. Alors évidemment, quand on parle non pas en termes d'équivalent en niveau de la mer, l'Antarctique c'est près de 60 mètres, le Groenland 6 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc ce sont d'autres chiffres, mais qui donnent aussi la mesure des risques posés aussi par exemple la fonte du Groenland. Ce serait 6 mètres d'élévation du niveau de la mer et c'est malheureusement envisageable à échéance millénaire.
Jérôme Chaplaz.
Oui, en complément de ce que Jean Jouzel vient de t'indiquer, je retiens la fin des propos de Claude. Il dit qu'avec ce site où on aurait seulement 2 cm d'eau, d'équivalent en eau qui tombe chaque année, on remonterait potentiellement à 200 000 ans. Et voilà, l'histoire de la science s'est fait d'évolution, de surprise. Jean pourra confirmer que quand le dossier du projet européen EPICA a été soumis au début des années 90, on espérait avoir 500 000 ans, avec deux fois la résolution temporelle que Vostok avait fournie. Et finalement, la surprise, c'est qu'on a eu 800 000 ans. Et voilà, c'était quand même une belle aventure. Jean a été responsable de ce projet pendant plusieurs années, qui a été couronné de succès, qui a permis d'obtenir un enregistrement extraordinaire des gaz à effet de serre et du climat sur 8 cycles climatiques, 8 successions de périodes chaudes et de périodes froides. Et aujourd'hui, cette même Europe vise à doubler la mise, à obtenir 1,5 million d'années en se déplaçant sur un site qui est situé à 40 km du premier site qui a fourni cet enregistrement de 800 000 ans.
Alors on a vu en première partie d'émission comment Claude Lorius a été le héros légendaire du premier hivernage mené en Antarctique en 1957. En 1984, il se rend donc à la station Vostok. Jean Jouzel, pourquoi c'est le rêve de tout chercheur polaire?
D'abord, souligner qu'il était avec Jean-Robert Petit et Michel Kretzwer, je crois, Jérôme, je ne me trompe pas. Donc c'était quand même... D'abord, c'est pas si facile. Donc on est en pleine guerre froide. La seule façon d'y aller, c'est de s'appuyer sur la logistique américaine. Donc cette logistique part du pôle sud. Claude donc et ses deux collègues rejoignent le pôle sud et là ils partent, mais il y a très peu de contacts possibles radio et enfin ils annoncent leur arrivée mais ils ne savent pas s'ils vont être accueillis. Donc et en fait ils le sont et là c'est ils le sont très bien et effectivement il y avait eu ces échanges, c'est-à-dire l'idée que bon, ce forage de Vostok, on est à 2 km, on sait qu'on a de la glace vieille de plus de 100 000 ans, probablement depuis... Voilà, et le leader soviétique, Volodya Kotliakov, effectivement, avait accepté l'idée que eh bien, les échantillons pourraient être analysés par nos équipes, Grenoble, Saclay, et parce qu'en fait, il y avait très peu d'analyses faites de ces échantillons en Union soviétique. Et donc, mais Claude, effectivement, il découpe un échantillon tous les 25... Ils prennent un échantillon tous les 25 mètres, il y a déjà plus de 2 km de forage, et il les ramène à, disons, en France. Et bon, moi-même, j'avais été un peu déçu, puisque je suis allé les chercher, je me souviens, à Roissy. Et en fait, ces échantillons, ils avaient été mal conservés. Voilà, ils n'ont pas été utilisables. Mais la deuxième fois, ça a été beaucoup mieux. Et donc, il y avait vraiment des prélèvements. Et là, des études extrêmement intéressantes conduites entre 85 et 86, donc à la fois sur la reconstitution du climat, c'est ce que nous faisons à Saclay, et puis bien sûr sur l'analyse des petites bulles d'air, et donc en particulier avec notre collègue également disparu, Jean-Marc Barnola. Et là, Jérôme, je te passe la parole.
Jérôme Chaplaz.
Merci Jean, c'est toujours émouvant d'évoquer ces noms de collègues disparus qui ont marqué notre histoire scientifique. Vostok, c'était effectivement un site extraordinaire pour tout glaciologue, parce que il faut se projeter à la fin des années 70, début des années 80, les Soviétiques venaient de carotter 2 km d'épaisseur du glacier, ce qui est extraordinaire. Et Claude savait pertinemment que ces 2 km de glace allaient fournir un enregistrement extraordinaire, permettant d'aller beaucoup plus loin que l'enregistrement de 1977-78 obtenu au Dôme C avec 900 mètres de carottage. Donc tout l'enjeu, c'était de convaincre les Soviétiques de travailler avec les Français. Claude, par ses talents de négociateur, par sa capacité à résister à des grosses quantités de vodka bues à Moscou avec les collègues soviétiques, eh ben il a emporté le morceau. Et il faudrait demander à Jean-Robert Petit, c'est dommage qu'il soit pas avec nous ici, mais il pourrait vous raconter les meilleures feuilles de ce séjour mémorable, où le matin, il devait se lever à 6 heures du matin et sans avoir encore pris son petit déjeuner, aller se mettre dans une cave à moins 50 degrés pour découper les précieux échantillons à ramener à Grenoble, donc sous les ordres de Claude, qui est évidemment extrêmement exigeant en la matière. Donc voilà, ça a été une aventure extraordinaire, avec ensuite des résultats qui encore aujourd'hui nous bouleversent quand on pense à comment ils ont finalement transformé notre regard sur le climat et la, je dirais, le pouls de la planète en matière climatique.
Et justement, parce que ces carottages de 2 km, ça donne accès à un cycle climatique complet. Je veux bien qu'on éclaircisse ça ensemble, Jean-Jules.
Oui. On va pas donner trop de chiffres, mais disons le climat d'aujourd'hui, on le connaît depuis à peu près 12 000 ans. Il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire, c'était très froid, le niveau de la mer, il y avait beaucoup de glace, à peu près la même, deux fois la quantité de glace qu'il y a actuellement en Antarctique sur l'hémisphère nord, grosso modo. Voilà, et le niveau de la mer à peu près 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, hein. Voilà, et ça, cette période glaciaire a duré avec beaucoup de variations quand même, disons, elle s'est mise en place il y a 110 000 ans. La précédente période chaude, qui était d'ailleurs un peu plus chaude qu'aujourd'hui, il y a 125 000 ans, 130 000 ans, et puis la précédente période froide, l'avant-dernière période glaciaire, il y a 150 000 ans. Ce que nous connaissions à l'époque, tous les forages qui étaient disponibles, aucun n'allait au-delà de la dernière période glaciaire. Et alors, nous savions, grâce aux premières mesures sur Dôme C, qu'il y avait des variations de gaz carbonique, mais est-ce que cet effet de serre allait de nouveau augmenter à la précédente période chaude? Et c'était assez intéressant parce que nous avions l'enregistrement, climatique, d'abord à Saclay, et ensuite Jean-Marc et puis Dominique Reynaud et toute l'équipe de Grenoble analysaient les petites bulles d'air. Donc nous connaissions ces résultats après avoir, reconstruit le climat. Et ça a été vraiment, c'était formidable de regarder chaque point qui vraiment, cette remontée des teneurs en gaz carbonique de l'effet de serre lors de la précédente période chaude et de nouveau cette descente très prononcée lors de la précédente période interglaciaire. Donc vraiment, tout au cours de ces 150 000 dernières années, c'était d'abord l'analyse du gaz carbonique et donc effet de serre et climat allaient vraiment main dans la main. Et ça, c'était formidable. Et effectivement, nous avons imaginé collectivement de proposer 3 articles. L'un, sur l'aspect climat, l'autre, avec Jean-Marc Barnola, sur l'aspect plus gaz carbonique et puis la relation entre les deux avec un étudiant, donc Christophe Janton. Donc nous avons travaillé collectivement tous ensemble. C'était une formidable aventure. C'était un défi de proposer 3 articles en nature, parce que je crois que ça n'avait jamais été fait.
3 articles très importants, 1980.
Voilà. Et ça a marché, voilà aussi. Il y a eu un écho formidable, et ça le méritait. Je crois que rétrospectivement, c'est vraiment. Oui, une découverte, je dirais.
Découverte majeure. On peut rentrer un peu plus dans le détail de ces 3 articles parus en 1987 dans Nature. Que décrivent plus précisément ces articles, Jean-Jouzel?
Donc, le premier, comme ils sont présentés dans cet ordre-là, il y a une certaine logique, la reconstruction des variations du climat. On va parler on estime à partir de l'analyse de la glace, les cycles, les variations du climat à l'échelle glaciaire-interglaciaire. Alors, ce que l'on sait à l'époque, c'est que ce qui détermine le climat à ces échelles de temps, et ce sont les sédiments marins, ils ont de l'avance sur nous, ce qu'on appelle les paléoceanographes, eh bien, ils ont montré que, c'est la théorie de Milankovic, ils ont confirmé l'existence d'un lien entre variation, disons, la position de l'orbite de notre planète sur l'orbite terrestre, la forme de l'orbite terrestre, la position de la Terre sur cette orbite, détermine les quantités d'insolation et détermine le climat avec des périodicités de 140 et 20 000 ans. Alors la première chose, c'est que l'enregistrement confirme effectivement la validité, enfin disons le lien entre climat et disons entre changement de l'orbite terrestre et climat à ces échelles de temps, mais et c'est là que le deuxième article apporte celui sur les petites bulles d'air apporte vraiment quelque chose de très nouveau. C'est ça la nouveauté, c'est que effectivement, eh bien, il n'y a pas que la position de la Terre sur son orbite qui joue un rôle, mais aussi la composition de l'atmosphère, l'effet de serre a joué un rôle à ces échelles de temps. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau à un moment où on commence à discuter effectivement du rôle de l'effet de serre, du risque posé par l'augmentation de l'effet de serre dans les activités humaines. Et puis, dans le troisième article, eh bien, on essaye d'évaluer les parts relatives de chaque, à la fois de l'insolation, de l'effet de serre, du développement des calottes polaires. Et c'est un article, disons, qui est aussi extrêmement intéressant et qui nous montre effectivement que, eh bien, l'effet de serre a joué un rôle et qui le confirme et qui permet d'en donner une meilleure connaissance.
Oui, c'est qu'on voit d'abord que les gaz à effet de serre sont directement connectés à la température, Jérôme Chaplaz.
Oui, directement connectés à la température, c'est-à-dire qu'on a plus de gaz à effet de serre pendant le climat chaud qu'a connu la Terre, et moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère quand le climat est froid. Et puis, ces résultats ont également démontré que la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère aujourd'hui et qui s'est développée au cours des derniers 200 ans n'avait pas d'équivalent sur la période étudiée qui correspondait à 160 000 ans, c'est-à-dire un cycle climatique complet. Après, je pense qu'il est important de garder en tête que ce processus d'obtention de ces courbes assez extraordinaires a été un processus assez long. On a mentionné en tout début d'émission cette intuition de Claude en 1965 avec son verre de whisky et son glaçon. Il a fallu près de 20 ans avant qu'une méthode vraiment fiable d'analyse du gaz carbonique dans les bulles d'air puisse aboutir au laboratoire. Et je me souviens, Jean-Marc Barnola qui conduisait ses analyses au laboratoire, c'était 2 échantillons par jour. Donc ça prenait beaucoup, beaucoup de temps pour produire l'enregistrement qui ensuite a été publié dans Nature. Et ça a été d'ailleurs des moments de grande émotion quand on se réunissait dans le bureau de Claude, avec Dominique, avec Jean-Marc, avec Jean quand il quittait Saclay pour venir à Grenoble. C'était des moments d'excitation extraordinaire parce qu'on voyait ces courbes se dessiner petit à petit. Et on se doutait que ça allait être un vrai choc pour la communauté scientifique.
Jean Jouzel.
Oui, oui, on a vécu ça. Alors, Jérôme, oui. Alors ensuite, c'est Jérôme qui est entré en scène également parce que il ne fallait pas. Il y a d'autres gaz à effet de serre que le gaz carbonique et Jérôme nous en parlera mieux. Voilà. Et donc, c'est 3 ans après, les mêmes échantillons. Donc Jérôme s'attaque, est un des premiers en fait aussi à être en mesure de mesurer d'analyser la composition du méthane. Et c'est tout à fait extraordinaire les variations. Alors on voit bien que c'est un peu plus compliqué. Il y a le rythme des moussons qui intervient, mais voilà, on voit aussi ces variations de méthane tout au cours de ces 160 000 ans. Et vraiment, là aussi, ça a été une découverte marquante. Et ensuite, un article dans lequel on essaye effectivement d'utiliser, on utilise d'ailleurs l'ensemble de ce résultat en 90, plus pour se tourner vers l'avenir et le lien entre climat et effet de serre dans le futur. Et ça, c'est toute cette séquence que nous avons vécue ensemble, Jérôme. Voilà, et je crois que les données en méthane sont aussi extrêmement importantes.
Oui, Jérôme Chaplaz, sur vos travaux et sur votre participation à ces avancées scientifiques et ce fameux article paru dans Nature en 90.
Oui, il fallait compléter le travail. On savait que d'autres gaz à effet de serre pouvaient avoir joué un rôle sur l'évolution naturelle du climat. On savait que ces mêmes gaz à effet de serre étaient en cours d'augmentation très forte dans l'atmosphère en raison des activités humaines. J'ai eu le privilège d'être chargé de développer une méthode pour analyser le méthane, deuxième gaz à effet de serre après le gaz carbonique d'origine humaine, et puis effectivement de l'appliquer à cette fameuse carotte de Vostok. C'était un immense privilège, une grande responsabilité. Ensuite, on a travaillé sur le protoxyde d'azote, le N2O, qui est un autre gaz très important. Mais ces résultats, je pense, ont on produit des courbes que tout un chacun peut comprendre. Quand on voit deux courbes qui évoluent de concert, qu'une correspond au climat, qu'une autre correspond à un gaz à effet de serre, et qu'on voit qu'elles montent et qu'elles descendent de concert, on sait que derrière, il y a un phénomène physique. C'est-à-dire que ces gaz à effet de serre, on les appelle pas gaz à effet de serre pour rien. Ils ont la propriété d'absorber une partie de l'énergie infrarouge qui est renvoyée par la Terre vers l'espace. Donc c'est un peu comme l'effet d'un pullover. Une partie de cette énergie va rester au contact du corps, et en l'occurrence, le corps, c'est la surface de la planète et l'atmosphère. Et donc c'est un phénomène attendu, mais là on a pu le quantifier. Et porter ce message vers le politique, là encore, la carotte de Vostok a joué un rôle essentiel, parce que en juin 1988, donc quelques mois après la publication de ce fameux triptyque dans Nature, le climatologue américain Jim Hansen était auditionné par le Congrès américain. Ça tombait bien, c'était une période de canicule aux États-Unis, donc les gens s'interrogeaient un peu sur ce qui se passait. Et Jim Hansen a présenté sa compréhension de l'évolution du climat et a notamment appuyé son propos sur ces fameuses courbes de Vostok. Donc ça a été vraiment porté ce message scientifique au plus haut niveau décisionnel aux États-Unis, et ça a été un des éléments qui a contribué à ce que le fameux GIEC soit mis en place. Et les gens pourront nous en dire plus justement sur ce processus complexe qui amène à ce que les scientifiques travaillent avec les politiques pour établir finalement la feuille de route concernant le climat.
Et comment les travaux de 1987 de Claude Lorius ont justement joué un rôle politique et dans la lutte contre le réchauffement climatique, restez avec nous. Madonna Frozen à 16h37 sur France Culture, car nous revenons sur l'importance des travaux de Claude Lorius, glaciologue et pionnier de la climatologie. Nous lui rendons hommage en compagnie de Jean Jouzel, paléoclimatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC et ami, proche, collaborateur de Claude Lorius. Et nous en parlons également avec Jérôme Chaplaz, glaciologue, ancien directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et directeur de recherche CNRS. Nous venons de voir comment l'influence des gaz à effet de serre sur le climat était clairement démontré pour la toute première fois grâce à ses travaux. Claude Lorius a également été l'un des premiers lanceurs d'alerte sur le réchauffement climatique. En témoigne cette archive de 1971.
On estime en gros qu'à cette époque, le volume que représentent les glaces était à peu près le double de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, vous voyez, pendant cette époque froide, il y a par exemple certains accidents qui ont pu être repérés au Groenland. Un réchauffement, disons relatif, parce qu'il fait tout de même très froid, et c'est à cette époque que les hommes des grottes de Lascaux ont dessiné des cerfs au lieu de rennes sur les murs de ces grottes. Il y a environ 11 000 ans, le niveau des mers commence à monter, les glaces fondent, les océans monteront d'environ 100 mètres par rapport.
Et nous entrons dans la période contemporaine. Alors cette période contemporaine, on la retrouve là, étudié d'une façon beaucoup plus précise. Qu'est-ce que ça nous indique ?
Cette période représente effectivement les 800 dernières années du climat au Groenland et je pense dans l'hémisphère nord. Ce qu'elle indique, eh bien, c'est que les températures sont alternativement chaudes et froides, mais il s'agit d'une amplitude bien inférieure à celle que l'on observe dans un tel accident.
Pas du tout une question d'air glaciaire ici.
Non,
ce sont vraiment...
Si vous voulez l'ordre de grandeur, c'est le degré centigrade. Ici, c'est 10 degrés centigrades de variation pour la température moyenne à l'échelle du globe. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que si l'on poursuit le tracé de ces variations au-delà de la date d'aujourd'hui, 1970, eh bien, on peut presque s'engager à prédire qu'il va faire un petit peu plus froid pendant environ encore une vingtaine d'années, et puis que... il fera plus chaud et que vers le milieu du 21e siècle, il sera peut-être plus difficile de skier dans les stations alpines.
Jean Jouzel, on peut dire que les travaux de Claude Lorius ont joué un rôle clé dans la prise de conscience de la part anthropique du réchauffement climatique.
Oui, effectivement, ce qu'il dit sur le ski en 2050 est prémonitoire. Si on se... là, c'est dans les années 70, en fait, tout va se jouer dans cette période. L'alerte est également donnée par les modélisateurs du climat, hein, voilà, qui regarde ce qui se passerait si on doublait les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce sont les travaux de Suki Manabe qui a eu le prix Nobel en 2021 de physique et ça amène au rapport Charney qui nous dit que si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien on irait vers des réchauffements compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. Mais c'est autre chose, on est en 79, mais c'est autre chose que de dire de façon théorique, disons de dire l'alerte de façon un peu théorique, que de montrer effectivement ces courbes, c'est-à-dire la réalité avec de façon extrêmement visuelle, ce lien entre CO2 et climat, effet de serre et climat sur notre planète. Et c'est ça la force, je crois, de la paléoclimatologie, c'est d'apporter effectivement aussi des informations pertinentes à l'évolution future de notre climat. Et là, Claude va s'engager dans les années 80. Il est extrêmement, il est tout à fait conscient que ces courbes, disons, ces résultats sont effectivement apportent du poids, à ce que disent les modélisateurs. Et c'est la création du GIEC en 88. Et c'est vrai que j'ai toujours le souvenir. Alors Claude était extrêmement impliqué dans les organisations internationales et nous avions une organisation internationale autour du climat du passé. Et, on avait été invité à. Cette organisation avait été invitée à proposer des noms pour participer au rapport du GIEC. Et c'est là que Claude a dit, eh bien, Jean, ça serait bien que tu participes à ces rapports du GIEC. Et effectivement, il a proposé ma candidature qui a été acceptée. Et j'ai moi-même continué à être impliqué dans ces rapports du GIEC pendant une bonne vingtaine d'années. Mais le point de départ, c'est vraiment la proposition de Claude Lorius que je m'y implique. Voilà, j'aime bien rappeler ça parce qu'il a joué un rôle, il avait tout à fait conscience il n'a pas été auteur lui-même, il avait tout à fait conscience de la nécessité de s'y impliquer. Il a tout fait pour que nos disciplines, et aussi Dominique Reynaud y était, y soient très présentes.
Jérôme Chaplin, vous avez commencé aussi à nous raconter comment ces découvertes ont amorcé ce mouvement qui mène à la création du groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC.
Oui, je crois que Jean a bien résumé la chose et Claude Lorius a clairement été un des instigateurs extrêmement forts au niveau politique et même au niveau des médias pour passer des messages sur ce qui était en train de se tramer au niveau climatique et la responsabilité humaine et la nécessité d'agir. Et moi, je salue l'investissement de Jean, effectivement, qui a mouillé la chemise, comme on dit, pour faire en sorte que le GIEC porte cette voix. J'aimerais juste souligner un autre aspect de Claude. Je pense vraiment que c'est un visionnaire sur beaucoup d'aspects et l'importance de la science au pôle, il l'avait comprise très tôt, et il a travaillé encore dans les années 1980-1990, parce que notamment la France joue un rôle important dans cette science conduite au pôle. Et par exemple, la naissance même de notre Institut polaire français, Paul-Émile Victor, on le doit à Claude Lorius, qui avec Paul-Émile Victor ont été les deux instigateurs, les deux personnes qui ont réussi à convaincre le gouvernement français qu'il fallait que la France se dote d'un véritable opérateur capable de faire en sorte que la science française puisse s'exercer au pôle Nord comme au pôle Sud. Claude a également été à l'origine même de la construction de la station permanente franco-italienne Concordia au cœur du continent antarctique, sur le fameux dôme C, sur le fameux dôme où Claude avait conduit ce carottage en 1977-78. Donc on voit bien cette dimension à la fois politique, de vision à long terme, d'investissement pour la communauté. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir ça également en tête quand on parle de Claude Lorius.
Oui, je vais continuer sur cet aspect visionnaire de Claude, parce que donc nous sommes en 87, mais donc il faut effectivement, on n'est pas au bout, il y a 3 700 km de glace, et les Soviétiques poursuivent, et là il y a eu un soutien français, en particulier de Jean-Robert Petit, et disons, les années 90, c'est aussi, bien sûr, un changement majeur. Les Soviétiques deviennent russes, hein, voilà, et puis c'est un changement majeur, c'est très difficile de poursuivre, et malgré tout, avec l'aide française en particulier, mais aussi l'aide américaine, eh bien ça se poursuit, et on atteint 400 000 ans, donc c'est une véritable répétition sur les 4 cycles climatiques de ce lien entre gaz à effet de serre et climat. C'était pas gagné, hein, si ça n'a pas été vérifié. Et puis, c'est aussi à cette période que Claude s'implique énormément. Il sait que le site du Dôme C, où il a, fait ce premier forage de 900 mètres, est extrêmement intéressant. Et il pousse à une action européenne, et vraiment il est au cœur du développement de ce projet, donc d'un projet européen, d'un forage profond au site du Dôme C. Et bien sûr, c'est ce site du Dôme C qui nous permettra de couvrir 800 000 ans, mais Claude a joué un rôle extrêmement important dans la mise sur pied de ce projet, donc il s'est déroulé ensuite jusqu'en 2010. On analyse toujours d'ailleurs des carottes de ce forage, Jérôme l'a indiqué, et ensuite il y a d'autres projets pour le futur, mais je tiens à dire que dans ce forage, ce projet EPICA, Claude a joué un rôle essentiel dans sa mise sur pied, c'est très clair.
On voit bien l'importance de Claude Lorius, l'importance de ses travaux pour ses dimensions politique, de politique climatique, pour la recherche. Il y a un autre aspect que je trouve aussi important et qu'il faut qu'on aborde ensemble, c'est qu'avec lui apparaît également un autre concept important, celui d'anthropocène. Jean Jouzel, c'est devenu aussi son autre cheval de bataille. On peut peut-être aussi rappeler ensemble qu'est-ce que ça veut dire anthropocène.
Oui, c'est ce changement majeur. C'est le moment à partir duquel, par nos activités, nous avons une influence sur l'environnement à l'échelle planétaire. Alors, on doit ça en particulier à un chimiste, Paul Crutzen, qui a été aussi prix Nobel, et qui, effectivement, proposait de mettre comme point de départ de l'anthropocène l'augmentation, le moment où on voit dans les carottes de glace que les petites bulles d'air, l'effet de serre augmente. C'est pas ce qui a été adopté, mais c'est la réalité. On voit bien qu'à partir du début du 19e siècle, ou du milieu du 19e siècle, nous commençons collectivement à modifier notre environnement, pas simplement en effet de serre, mais en beaucoup de choses. Après, ce sera bien sûr la modification de l'ozone à partir des années 50. La pollution au sens large. On peut parler aussi des retombées nucléaires qu'on voit jusqu'en Antarctique. Donc c'est tout ça qui intéressait Claude. Pas simplement, il avait une vision très large de notre environnement. Donc pour lui, l'anthropocène, ce n'est pas simplement l'augmentation de l'effet de serre de nos activités, mais c'est tout l'ensemble des conséquences de nos activités sur notre environnement.
Jérôme Chaplaz.
Oui, je compléterai ce que Jean a dit en ayant effectivement en tête qu'on ne parle pas seulement de climat et de gaz à effet de serre. Claude avait été très marqué par le fait que dans les neiges de l'Antarctique, on retrouvait les retombées radioactives des essais thermonucléaires que l'on avait conduits dans les années 50 et 60. Donc c'était une marque que même à l'autre bout du monde, au pôle sud, des essais thermonucléaires conduits en Sibérie, conduits au Nevada, conduits en Chine, conduits à Mururoa, avaient laissé des déchets radioactifs dans la neige de l'Antarctique. Donc ça, je pense que ça a été un élément très important. Et puis, il ne faut pas oublier que les carottes de glace ont également permis de mettre en lueur d'autres sources de pollution d'origine humaine. Les augmentations en métaux lourds, par exemple, comme le plomb, comme le nickel, comme le cuivre, l'augmentation de polluants organiques persistants, l'augmentation des acides, les sulfates, les nitrates. Tout ça, on a pu le mesurer dans les carottes de glace, non seulement en Antarctique, non seulement au Groenland, mais également dans les glaciers de montagne. Et là-dessus, je pense que Claude a eu aussi, une sensibilité très forte. En raison du réchauffement climatique, aujourd'hui, les glaciers sont en train de disparaître de la surface de la planète. Et avec eux, on perd la mémoire. On perd justement ces enregistrements extraordinaires qu'on a pu déchiffrer depuis 60-65 ans. Et Claude a été un des tout premiers soutiens à une initiative que l'on a lancée à Grenoble et à Venise, qui s'appelle Ice Memory, visant à collecter des carottes de glace, de glaciers de montagne notamment, avant qu'il ne soit trop tard, et les transporter en Antarctique pour les léguer aux générations futures pour la science de demain. Claude était visionnaire, et visionnaire notamment en croyant en cette initiative et en la soutenant dès la première heure.
En 2008, il a reçu le Blue Planet Prize, qui est considéré comme le Nobel de l'environnement. Il est d'ailleurs le seul Français à avoir reçu ce prestigieux prix. Jean Jouzel, on peut aussi parler, on parle là de son importance. Autre point, et une mission qui vous tient vous aussi à cœur, c'est justement son implication dans le domaine de la vulgarisation, de la sensibilisation auprès du grand public.
Oui, c'est important, il le faisait très bien, ses conférences étaient extrêmement... passionnante, son enthousiasme, voilà, donc il le faisait très bien. Je crois qu'il nous a passé, disons, cette envie de communiquer qu'il avait. Il l'a fait à travers ses conférences, il l'a fait à travers des livres, à travers toute une série de livres, avec toute une série, bien sûr, aussi ses documentaires, et puis La glace et le ciel, qui lui est consacré. Donc il y a beaucoup de choses, et tout cela, donc il pensait vraiment communication, dire, se tourner vers les jeunes, voilà, et puis vraiment, il avait cette capacité à transmettre de façon extrêmement convaincante ce que nous avions découvert, mais bien au-delà aussi, vraiment, tous ces problèmes environnementaux lui étaient très familiers.
Vous avez tous les deux été très proches de lui. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Jean Jouzel, pour vous qui connaissez bien Claude Lorius, pour lui, quels étaient les enjeux de la glaciologie de demain ?
Les enjeux de la glaciologie de demain, c'est ce qui se passe. Je crois qu'il avait, la conviction que, remonter dans le temps était important, et c'est ce nouveau programme que Jérôme a mentionné, qu'on appelle Beyond Epica. Donc, il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Il avait aussi, je crois, comme notre communauté, il était intéressé par le lien entre, je dirais, science et décision politique. Ça, c'est très important aussi. Et voilà, pour nous, pour lui, la science était aussi aller, témoigner auprès des décideurs politiques. Il l'a fait, bien sûr, de façon importante. Michel Rocard, il était très proche de Michel Rocard, par exemple. Voilà. Et donc ça faisait partie aussi de sa, je crois qu'il, il avait toujours à l'idée de rentrer de plein pied dans la science d'aujourd'hui, c'est-à-dire que bien de nous étions, je crois, collectivement, et nous partagions cette idée que c'est bien de reconstituer les climats du passé, mais c'est bien aussi de constater que ces climats du passé, on ne peut pas ne pas les regarder si on veut comprendre l'évolution future de notre climat. C'était ce lien qui le passionnait, et de là, évidemment, toute vraiment cette nécessité de rentrer dans, d'une certaine façon, dans l'arène politique, d'aller vers les politiques, de dire ces choses, ce lien entre nos activités et puis les risques qui sont posés, qui sont toujours bien là, malheureusement. Voilà, c'est un peu ça, Claude. Il avait vraiment cette hargne de faire le lien entre climat du passé et climat du futur.
Pour conclure, Jean Jouzel, on vient de voir l'héritage majeur de Claude Lorius. Est-ce qu'on réfléchit à lui rendre un hommage ?
Oui, je crois qu'on y réfléchit, oui. Avec Jérôme, nous en avons parlé, et avec Dominique, et voilà, nous allons voir. Je crois, Jérôme, j'espère que nous allons faire quelque chose. J'en ai discuté aussi déjà un peu au niveau de l'Académie des sciences. Voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose, et puis que vous y serez associés.
Merci, il existe voilà, en tout Natacha. Cas déjà voilà, un Mont Lorius.
Nous sommes déjà, merci de cet hommage qui lui est rendu.
Merci, un Mont Lorius existe déjà sur le continent blanc. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Jean Jouzel, je rappelle que votre ouvrage Climat, l'inlassable pionnier, un recueil d'entretiens avec Paul Goupil, va paraître le 14 avril aux éditions Ouest France. Et pour prolonger l'écoute, il y a cette excellente série documentaire de France Culture, À voix nue, avec Claude Lorius, dont je vous recommande l'écoute. Écoute très chaleureusement. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
Pourquoi les constantes fondamentales valent-elles ce qu'elles valent ? L'hypothèse d'un multivers consiste à considérer qu'il existerait un univers gigogne composé d'un très grand nombre d'univers bulles, chacun ayant ses propres lois physiques. Personne ne sait dire si elle est juste ou fausse, mais elle a le mérite d'obliger à interroger les fondements de nos modèles cosmologiques, notamment le rôle déterminant qui joue les constantes universelles de la physique. Il apparaît en effet que si ces dernières avaient des valeurs différentes de celles qu'elles ont, la vie telle que nous la connaissons dans notre univers n'aurait pas pu émerger. Une première illustration nous aidera à comprendre le nœud de cette affaire. Elle concerne l'interaction nucléaire forte, celle qui lie les protons et les neutrons au sein des noyaux d'atomes. Il suffirait qu'elle soit légèrement plus intense, d'environ 1%, pour que les étoiles ne vivent pas plus que quelques secondes, au lieu des quelques milliards d'années que nous observons. L'intensité de cette interaction se trouve donc à avoir la valeur qu'il lui faut avoir pour que la vie soit possible dans certains endroits de l'univers. De semblables conclusions s'obtiennent lorsqu'on s'amuse à faire varier, pour voir, la valeur d'autres constantes du monde physique. Un second exemple nous aidera à encore mieux comprendre. Il concerne la masse du neutron, dont on sait qu'elle est très légèrement supérieure à celle du proton. Si la différence entre leurs masses avait été très légèrement plus grande, tous les neutrons se seraient transformés en protons. Or, sans neutrons, les atomes autres que l'hydrogène ne peuvent plus se former, et sans atomes de carbone, il n'y a pas de vie. Si au contraire, la masse du neutron avait été très légèrement inférieure, c'est l'inverse qui se serait produit. Les protons se seraient tous transformés en neutrons. Or, sans protons, pas d'atomes, pas même d'hydrogène, et par conséquent, pas de vie possible. Un certain nombre de physiciens, notant ces multiples coïncidences, en tirent la conclusion que notre univers est bien plus complexe que la plupart des univers qui posséderaient les mêmes lois physiques que lui, mais avec des constantes fondamentales ayant des valeurs différentes. Selon eux, les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse sont réalisées dans notre univers grâce aux valeurs finement ajustées de ses paramètres physiques. Mais y a-t-il eu ajustement, ou simplement heureux hasard ? Certains physiciens, comme je l'ai dit, voient dans ces coïncidences favorables l'indice de l'existence d'une pluralité d'univers ayant des paramètres physiques différents. Les dés auraient été jetés un très grand nombre de fois, de sorte que tous les univers possibles seraient réalisés quelque part, et nous aurions eu la chance de tomber dans un univers localement vivable et plutôt hospitalier, du moins en certains lieux. D'autres physiciens, jugeant cette hypothèse déraisonnable, préfèrent voir en amont de cet ajustement la main d'un être transcendant qui aurait fixé la valeur précise des paramètres de l'univers pour que l'homme puisse ou doive y apparaître. On parle de principe anthropique. Dieu, finalement, aurait été un sacré bricoleur. Mais un tel Dieu ajusteur de constantes universelles ne serait en fait qu'un demi-dieu privé de beaucoup de son prestige et de sa gloire. Il faut en effet l'imaginer demandant à l'un de ses adjoints « Hé, Polo, passe-moi le tournevis, tu veux bien, les étoiles déconnent sacrément, elles font pas de carbone, faut que j'augmente d'un chouïa la vitesse de la lumière. » Fin de citation. D'autres encore considèrent que ces questions n'ont pas à être posées. Les choses sont ce qu'elles sont, et nous n'avons pas à justifier leur pourquoi. Enfin, les plus prudents jugent que toutes les réponses qu'on peut leur apporter sont prématurées, voire vaines, car nous ne savons pas encore à partir de quelle théorie nous pourrions les discuter. Comme on le voit, la cosmologie contemporaine offre un paysage éclaté, difficile à interpréter. Finalement, dans un tel contexte, où l'origine se niche-t-elle ? Si des univers ne cessent de naître, tandis que d'autres agonisent ou disparaissent, l'origine n'est plus un événement, mais une routine sempiternelle, une rengaine. Tout le contraire d'un moment crucial. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous m'accorderez qu'il y a de quoi.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Cette émission n'existerait pas sans le talent d'Antoine Beauchamp, de Noémie Maguet, de Saint-Vulfranc, Garance Prémat-Agnolo, Céline Lozen, Ève Étienne, Nafi Terrasse à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.